Très chère Geneviève, voilà 32 ans que nous cheminons ensemble. Et je dois vous dire l'immense joie et l'honneur d'être aujourd'hui auprès de vous, de Bernard Golz, de tous les amis et collègues de la CIPA et d'autres sociétés, d'autres pays, mais aussi auprès des associations de familles, des personnes autistes, pour évoquer vos immenses avancées que vos travaux ont apportées à la psychothérapie psychanalytique de tous les enfants, mais aussi à la psychanalyse de l'adulte, et ce particulièrement aux prises avec les enclaves autistiques. Ainsi qu'aux mesures des effets thérapeutiques, et cela à tous les âges de la vie. En effet, vos travaux ont permis d'approfondir la nature de la construction des identifications primaires et secondaires, de l'image du corps, du moi corporel, leur implication dans le déploiement des processus de pensée, du traitement des sensations, des affects et des représentations, ainsi que des processus de jeu, nécessaires pour conserver une liberté de pensée, et ceci une nouvelle fois à tous les âges de la vie. La liste des contributions est longue. Je vais m'employer à reprendre les thèmes qui rendent compte de nos échanges et qui participent à nourrir les preuves scientifiques des effets thérapeutiques des traitements psychodynamiques au service des personnes autistes, mais pas seulement. Et j'y insiste, pas seulement. L'aller-retour entre la clinique projective et la clinique des psychothérapies est ici extrêmement précieuse. Je vais en donner plusieurs exemples. Ce que je voudrais également ajouter, c'est combien votre recherche incessante de mise en lien entre vos observations du développement chez le bébé et la psychopathologie autistique, soit comme thérapeute, mais aussi comme pédopsychiatre consultante, a nourri l'accompagnement constant des familles et de leurs enfants sur les longs et sinueux chemins thérapeutiques parsemés d'embûches. À vos côtés, j'ai également beaucoup appris pendant des années en soutenant la création et l'évolution de l'association des parents La Clé pour l'autisme, qui a été une bâtisseuse de lieux pour accueillir les personnes autistes à tous les âges de la vie et maintenant une fondation Philippe Sibiode, à qui je rends hommage. Je salue ici Thierry et Jacqueline Sibiode, Lydia Milo, pour l'immense travail entrepris, si fructueux et aussi soutenu par Simone Veil, marraine de l'association, dont je salue aussi la mémoire vive. Elle entrera demain au Panthéon. Pour revenir au moi corporel et ses projections, il me faut dire au préalable combien vos observations et vos élaborations ont révélé des mises en pli inconnues dans cette région psychique où se logent nos premiers rythmes, nos premières identifications, nos premières formes de pensée dont nous garderons les traces toute notre vie durant, traces si difficiles à saisir au fil du temps. L'analyse des mouvements de transfert et du contre-transfert dans la psychothérapie vous a permis, au-delà de la projection, mais en deçà aussi de la projection, du moi corporel, de donner sens aux identifications les plus primitives en nous. L'identification intracorporelle à partir des traces des défaites, des intégrations du moi corporel et de leurs conquêtes que vous avez décryptées chez Bruno, Ariel, Alina, Pierre, Baptiste et tant d'autres. Mon propos se centrera aujourd'hui sur 5 textes qui figurent parmi ceux que j'ai beaucoup lus et relus, parmi, je pense, vos 350 publications, quelque chose comme ça. Je crois, oui, en comptant les traductions.
Un peu plus de 100.
Pardon ?
Un peu plus de 100.
Oh, je crois qu'il y en a un peu plus, Michel. Un peu plus. Et donc, je commencerai par évoquer la rencontre avec le texte en 2002, effectivement, sur le Théâtre des Mains. J'y avais pensé avant qu'on en parle ces jours-ci. Illustré par quelques exemples de scénographie Aurore Char, puisque, effectivement, les épreuves projectives nous donnent à penser combien là où on est la projection de la construction de ces objets partiels. Et aussi un deuxième texte qui est celui du moi corporel entre dépression primaire et dépression mélancolique, paru la Revue française de psychanalyse. Alors, voilà les textes. Accompagné aussi de la sexualité orale et le moi corporel, qui est un texte vraiment éminemment brillant et puissant, à mon avis. Je me pencherai aussi sur les relations entre la géométrie primitive du moi corporel, très rapidement, hein, bien entendu, et l'affect en attente de mise en forme, comme le rappelait André Green. Et les mouvements d'appel de la mélancolie, également, à travers la dépression primaire et ses réaménagements des projections et des représentations spatiales. Je terminerai mon voyage dans votre œuvre avec le rythme, la forme et l'esthétique, avec deux textes. Celui que je crois que je préfère dans votre œuvre, enfin un de ceux que je préfère, qui est de la sensorialité aux ébauches des processus de pensée, parce qu'il nous aide beaucoup dans les évaluations justement de l'évolution du dégagement de l'état autistique. Et aussi réflexion sur une forme de symbolisation primaire. Alors c'est un texte, on pourrait dire, qui représente une grande partie de votre œuvre autour de la constitution du moi corporel et les représentations spatiales, géométriques et architecturales corollaires. Alors après la découverte chez le cas Bruno, puis dans la représentation graphique de l'enfant de la structure radiaire de contenance, qui était Bruno, en fait, quelques années plus tard, vous l'avez d'abord, vous avez publié une observation de Bruno à l'âge de 20 mois, et puis lorsqu'il a 4 ans, eh bien, c'est là où c'est le petit garçon qui va se faire l'aller-retour entre vous, votre regard, le mur, et puis son petit fauteuil. Donc c'est Bruno et l'enfant du schéma de contenance. Et vous avez proposé donc de considérer le théâtre des mains comme une activité identificatoire représentationnelle. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque vous en avez beaucoup parlé. Un certain nombre de psychanalystes aussi se sont penchés sur l'investissement des extrémités du corps. Pierre Malle et Alice Doumi qui étaient extrêmement vigilants par rapport à ce que les adolescents qu'est-ce que les adolescents, comment les adolescents se représentaient leurs mains, et Alice Doumic aussi très attentive auprès des bébés. André Green était aussi lui subjugué par les mains négatives de la grotte d'Altamira et il a été très intéressé par vos travaux autour du théâtre des mains. Une des premières révélations de vos travaux s'est trouvée sur mon chemin de projectiviste au Rorschach et j'y ai rencontré le théâtre des mains de façon inattendue. Adrien, 3 ans, est un enfant qui émerge d'une dépression. C'est pas un enfant, dire qui, peut-être maintenant on aurait pu dire qu'il avait des troubles du spectre autistique, mais c'est une observation qui date une vingtaine d'années, on pourrait dire maintenant. Et à l'époque, c'était un garçon qui était considéré comme ayant fait une dépression précoce avec des replis, mais qui n'ont pas donné lieu à une évolution autistique, mais en tout cas préoccupante, et il a été suivi justement pour l'aider à réunifier ce moi corporel qui avait été sinistré par la dépression. Et alors, on retrouve Adrien donc à 3 ans, et lorsque il se présente à moi en disant qu'il est un petit bébé qui a grandi. C'est un garçon qui a récupéré beaucoup, de sa vivacité, et il se plaint beaucoup de ses maux corporels. Il a mal, il a des bobos à ses mains, justement, qu'il me montre. Et à la planche 1 du Rorschach, il dit « C'est quoi ce qui est noir ?»« C'est une toile d'araignée. » Et à la planche 2, il poursuit. Voilà la planche 2. « Tu sais, la toile d'araignée, elle se casse par terre. » Alors je suis saisie par le mouvement. Projection justement d'une toile d'araignée qui s'effondre et je lui demande de pouvoir situer mais c'est où par terre et il me répond par terre c'est sur le blanc là et donc on voit comment dans le blanc central il y a une projection de trous qui va tomber, qui peut tomber sans fin, là, elle tombe par terre. Donc, elle trouve un fond, malgré tout. Puis, et alors c'est là où j'en arrive au théâtre des mains, ils se mettent à pianoter et à chantonner sur un mode rythmique sur le blanc de la planche. C'est-à-dire qu'il va toucher le blanc de la planche centrale et commencer à rythmer, pianoter, chantonner. Tout en me regardant et en souriant. Donc on voit qu'il y a un choc chez cet enfant au blanc, hein, au choc, au trou central, qu'il va pouvoir, eh bien, une fois la narrativité développée de ce choc au blanc, il va pouvoir, grâce à la récupération de rythmicité et de kinesthésie, c'est-à-dire que le Rorschach est intéressant à ce niveau-là parce qu'il nous montre comment la kinesthésie peut être réinvestie ou pas, d'ailleurs, parce qu'un enfant autiste aurait pu aussi s'affaler en même temps que la toile d'araignée qui s'effondre, hein. Donc là, on voit que ce garçon, la projection est bien plus développée qu'il n'y paraît. Un autre exemple, une petite fille, 5 ans, Carole. C'est une petite fille qui présente là des troubles du spectre autistique. Elle a beaucoup évolué grâce au dispositif thérapeutique associant une psychothérapie, une prise en charge en psychomotricité, une aide psychopédagogique. C'est un dispositif pluriel. Et je la vois en retest après 2 ans, où dans un premier test, elle ne pouvait absolument pas, elle parlait à peine, et je n'avais pas pu lui proposer des preuves projectives. Et à la planche 1, elle perçoit des trous, elle aussi. Et elle se met à sucer sa main. Vous voyez, le trou l'amène à réinvestir sa bouche et sa main. Et à la planche 2, alors elle dit, donc, un petit trou, c'est une pierre. Vous voyez comment le mouvement d'armure, en fait, est projeté sur le trou qui devient une pierre. À la planche 2, elle voit, elle aussi, le gros trou. Et elle dit, on pourrait tomber dedans. Elle retourne la planche et regarde si le fond tient, comme s'il était pris dans un mouvement quasi hallucinatoire, qui pourrait également évoquer une équation symbolique en ayant besoin de vérifier en vrai la solidité du matériel. Elle poursuit en disant « Ah, mais si on mettait les mains devant et qu'on lève les pieds et hop, on glisse dedans, sans bouée, personne ne pourra me sortir de là. » C'est une des passations les plus pathétiques et les plus émouvantes, cette petite fille. Et j'étais assez émue sur le moment. Un silence s'est installé. Et je me suis effectivement retrouvée sidérée du surgissement chez Carole de mouvements de dépression primaire, mais aussi matinée d'angoisse massive de chute et aussi d'affect mélancolique. Personne ne pourrait me sortir de là. Et je me surprends à lui dire « Oh, mais tu sais, moi, je ne veux pas te laisser tomber là-dedans. » Et Carole commence à tapoter ses mains sur la table et dire qu'elle voit finalement à la planche 3 des peintures. Donc on voit comment la restitution de l'affect lui a permis de pouvoir réinvestir sur un mode adhésif les peintures, les formes, sans que cela puisse amener à une rupture, à un choc. Et puis elle commence à me dire que elle aime beaucoup les couleurs et que si on mélangeait du jaune avec du bleu, ça ferait du vert. Puis elle se met à chantonner en rythme, associée là de nouveau à un nouveau pianotage de main, en me racontant sous forme de comptine qu'elle est allée à Beaubourg avec sa classe et qu'elle a vu des beaux tableaux avec du vert. Donc on voit comment le réinvestissement de la couleur et des affects lui permet de pouvoir reprendre une narration de ces liens entre des affects et des représentations sans être précipité dans le blanc trou, plus dans le bidimensionnel. Mais en même temps, elle parle et elle raconte le groupe aussi avec lequel elle est allée voir ces tableaux. Alors, je vais vous faire grâce de tous les commentaires que cela pourrait faire surgir. On aura l'occasion d'en reparler à un autre moment. Et je voudrais aller vers le texte le moi corporel entre dépression primaire et dépression mélancolique, pour vous livrer deux vignettes, une chez une enfant, la nôtre, et puis une autre vignette chez un adulte, très brièvement. Alors, cet enfant que je suis depuis l'âge de 3 ans et demi, elle a 13 ans maintenant, hein, Et là, c'est une vignette, je la vois trois fois par semaine à ce moment-là. Elle a 3 ans et demi, 4 ans. C'est tout au début où je l'ai rencontrée, avec sa mère dans un premier temps, et puis je l'ai vue seule. Alors, à cette époque-là, elle vide la boîte de jouets qu'elle a, de ses contenus pour s'y mettre, et elle reste, c'est une grande boîte, elle reste prostrée un moment. Je tente de la rejoindre alors que sa mère évoque des préoccupations de la famille pour la recherche de travail, de logement. Et je vois que Nour, elle s'appelle, je l'ai nommée Nour, s'évade. Elle est prostrée et en même temps, je vois qu'elle est en train de partir loin. Et je lui demande, mais dans quel pays es-tu partie, Nour? Et Nour reste enfermée dans une écolalie qui raconte une cassette de Léo, le petit bébé. C'est-à-dire quand je m'adresse à elle, elle part dans une écolalie stéréotypisante. Elle reste indifférente un long moment. Je renouvelle ma question. Elle fait un signe de rage. Et ces signes de rage, c'est comme si elle allait mordre. Elle commence à tanguer dans la boîte, puis à hurler. La mère dit, ah, vous voyez, lorsqu'elle est comme ça, moi, c'est terrible, je ne sais plus quoi faire. Nour se catapulte en dehors de la boîte et se jette sur le mur. Je me lève et tente de la contenir. Elle se débat tout en se laissant plus ou moins faire quand même. Et je lui dis qu'ici, c'est interdit de se faire mal, elle le sait. « Je vais te garder dans mes bras », je lui dis. « Le temps que tu te calmes. » Et la mère dit « Ah, j'aurais jamais osé faire ça, moi. » Nour finit par s'apaiser et aller dans les bras de sa mère. À la fin de la séance, il lui faut passer les seuils de porte, qui sont de véritables épreuves pour elle. Elle recommence un début de crise, car elle veut ouvrir la porte d'entrée du cabinet, ce que je ne lui laisse pas faire. Elle commence à hurler et à taper des pieds, ce qui annonce une crise de rage immense. Prise peut-être moi-même dans un mouvement maniaque, j'associe le taper du pied à un pas de flamenco, ce qui donne un taper du pied rythmique. Nour reste sidérée, la mère éclate de rire. Elle passe le seuil de la porte. Nour est médusée. On pourrait dire que peut-être des barrières aux limites, un rythme est créé. Et c'est une interprétation corporelle qui va pouvoir aussi donner sens à ce passage où le regard est perdu. Et le mouvement rythmique inattendu du pas de flamenco l'a amené à me regarder aussi et à passer le seuil de la porte. Chez l'adulte post-autiste, on retrouve également des traces parfois ténues des non-intégrations des parties de l'image du corps, du moi corporel, conjuguées au vécu de dépression primaire. Et les disqualifications de la capacité à construire des limites sont inhérentes à cette dépression primitive qu'il est bien difficile de pouvoir interpréter avant de longues années. Jean, 35 ans, présente un syndrome d'Asperger. Il n'a jamais été suivi durant l'enfance, bien que présentant des difficultés de relation et d'organisation de sa personnalité. Pour Jean, tourner les pages d'un livre lui semble insurmontable, source d'une fatigue terrible, ce que j'ai souvent commenté comme franchir les seuils de porte, les seuils de page. Il a paru stupéfait. Alors ça, vous ne croyez pas si bien dire. Vous savez, j'y suis comme les autistes. Hein. J'en voyais l'autre jour à la télévision passer un seuil de porte. Si j'y pense, je suis mort. C'est l'effroi, depuis toujours, pour moi. Si je pense que je lis, je suis mort aussi. La question des enclaves autistiques ignorées s'est posée au fil de la cure installée sur le divan pour cet homme. La fatigue fit son apparition, lui, l'infatigable, le résistant à toutes les douleurs. « Même pas mal » était son slogan préféré, plus fort que toutes les sensations. Il qualifiait la fatigue inconnue au bataillon. Son système numérique contrôlait tout. Avant, impossible la fatigue. Ma tête dominait mon corps qui était au service de mon système, disait-il. Lorsque je lui demande quelle partie de son corps n'était plus sous contrôle, Jean répond « Ce sont les articulations. » Alors, vous voyez, ça fait « gling ». Vous savez, avec les câbles de mon ancien système qui actionnait, commandait immédiatement mon corps. Avant, il n'y avait pas de surprise. Tout était au service de la géométrie des angles. Ding ! La mécanique s'est usée maintenant. Tout me vient frontalement et c'est surtout la fatigue. C'est extrêmement pernicieux, je deviens triste. Alors souvent je dors maintenant, pour m'évader de la tristesse, surtout dans les voyages en train. Avant, je rentrais dans la tête des autres pour que ça aille plus vite. Moi, je n'étais jamais fatiguée. J'étais même infatigable. Jean demeure silencieux. Il reprend. C'est le temps et l'espace qui devaient toujours être incompressibles. Les regarder en moi, ça me donne des limites maintenant. Alors je deviens triste et fatiguée. J'ai moins peur que les larmes avec les hurlements débarquent. Jean montre un immense travail de transformation des représentations spatiales de son corps et de la relation à l'environnement. Celles-ci se sont beaucoup modifiées du fait de l'intégration du regard qu'il porte désormais sur son fonctionnement psychique et corporel. Il vient me voir 3 fois par semaine depuis 20 ans. Il peut franchir maintenant les seuils de porte sans craindre de perdre son unité psychique et corporelle dans ces passages réputés dangereux pour l'unité de son moi corporel. Un mot des processus de jeu pour conclure, pour lesquels vos travaux comptent désormais comme repères incontournables pour penser la nature des intrications et des désintrications pulsionnelles, comme le rapporte Noni Ribas, et organisant ou désorganisant les symbolisations primaires et secondaires. Alors on va aller directement au cénotest que j'utilise dans les évaluations test-retest pour tous les enfants, et notamment les enfants qui se dégagent de l'état autistique. Donc, Gerschild von Stab a eu l'idée de construire cette boîte de jeu en 1938 à Berlin, 2 ans avant que la Deuxième Guerre mondiale soit déclarée. Et on peut penser que cette attention au jeu et au processus de jeu était pour elle un travail important à développer compte tenu de tout ce que son pays allait vivre et notamment aussi en Europe. Donc le jeu est censé être un espace de liberté et on voit combien l'évolution du jeu est parfois très parlant. Là, l'évolution de Peter à 5 ans, à 8 ans et à 10 ans, dont j'ai revu à plusieurs reprises en test-retest, et on voit que à 5 ans, il a organisé des petits espaces qui sont bien fermés, cloisonnés, clivés, on pourrait dire, où il y a toujours un animal à l'intérieur qui est regardé par un autre à l'extérieur. Alors le renard regarde le petit poussin, le crocodile regarde la vache à l'intérieur, mais il y a tout ce cloisonnement. À 8 ans, alors entre-temps, il a été suivi en psychothérapie, en orthophonie, en psychomotricité, en consultation familiale régulière, tout un dispositif thérapeutique qui l'a amené, quand je le revois à 8 ans, à pouvoir construire un paysage, c'est-à-dire une perspective que je retrouve chez beaucoup d'enfants se dégageant de l'état autistique par rapport à cette construction de la perspective et justement de la distance à l'objet qui renvoie justement à ces points l'intégration de ces points de rebond et il y a cette construction du fond que l'on voit on voit au fond là où il y a le train et la voiture qui circulent. C'est là où ont lieu les mouvements. Lorsque je le revois à 10 ans, vous voyez que le paysage a bien changé et que ce paysage il se répartit entre ce qui se passe chez les femmes, chez les hommes et chez le grand-père qui représentée aux toilettes. C'est-à-dire que l'analité pathologique, l'analité pathologique, elle est reléguée aux très vieux ou en tout cas à la différence des générations. Et là, il y a des amalgames qu'il va falloir travailler avec lui. Mais on voit que ce train, ça c'est la scène finale bien entendu, mais le train est bien circulé entre les hommes et les femmes et la bisexualité psychique là commence à être intégrée d'une nouvelle façon. Alors, Bon, bien entendu, vous avez aussi beaucoup travaillé, Geneviève, pour saisir ces processus de changement, notamment à partir de la grille des processus de changement que vous avez élaborée et qui a servi aussi à l'étude menée par le couple des Turin et toute la publication et Bernard, enfin aussi tout ce travail qu'il nous faut continuer encore plus que jamais à développer de façon plurielle, grâce à votre grille, mais aussi grâce aux évaluations projectives et aussi qui font des ponts avec le travail, la méthode de transfert contre transfert au sein des psychothérapies psychanalytiques. Alors, je passe là-dessus, on y reviendra parce que j'aurai des questions à vous poser sur l'histoire d'identification adhésive avec le singe et son arbre. C'est-à-dire que j'ai découvert pour un certain nombre d'enfants, j'ai 150 passations maintenant et j'en ai une bonne vingtaine où je retrouve ce mouvement du petit singe qui est eh bien accroché à l'arbre comme cela et ça me pose beaucoup de questions. On y reviendra plus tard. Pour conclure, chère Geneviève, je voudrais vous rappeler que vous avez construit un modèle de dispositif thérapeutique remarquable, qui est devenu un modèle très pertinent, permettant à l'enfant et à sa famille de mettre au travail, à partir de la consultation thérapeutique, les différentes fonctions psychiques et corporelles entravées dans l'autisme. Ce cadre essentiel sert de pilier pour le développement des mises en dialogue intrapsychique et interpsychique et il permet de mettre au travail aussi différentes approches simultanées. Vous avez, il y a bien longtemps, mis en place, et notamment l'Institut Claparède, des thérapeutiques simultanées. La psychothérapie, la psychomotricité, l'orthophonie, le travail du jeu aussi et les constructions des espaces. On sait que c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir se dégager le plus rapidement possible de cet état autistique. Ces relations motrices et gestuelles sont aussi mises au travail dans le cadre des thérapies familiales. Et je pense que c'est important aussi de penser aussi ces éléments dans le dispositif, car ils aident beaucoup les familles à pouvoir décrypter des mouvements de communication circulant au sein de la groupalité familiale, qui est très impacté par les traces de ces intégrations, non-intégrations et désintégrations du moi corporel. Alors Geneviève, est-ce que, à votre avis, j'ai pu transformer les points de rebond pour tout ce travail et j'espère que nous aurons encore pendant longtemps à continuer à réfléchir à tous ces théâtres des mains, de la bouche, du corps et du moi corporel. Je vous remercie.